Adicias, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'émission et si demain sur Occitanie Première en compagnie de donc de Landis, comment tu t'appelles déjà?
Je me souviens plus, Landis c'est là, oui depuis...
Voilà. Il est là, et Christian Moreto, et je remercie Jean-Loup Arzac-Fraisse pour la réalisation, parce que sans réalisation, pas d'émission. Je salue au passage Adrien Massé, qui est aussi là, le créateur de Mode. Et puis, nous avons dans le studio, donc Octavia Ivan, bonsoir.
Bonsoir Christian, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, et puis devrait nous rejoindre aussi Sophie de Borde, les yeux dans les docks que nous avons déjà reçus dans cette émission, et si demain la traversée, c'est le vendredi matin entre 10h et midi. Et donc, et si demain nous semions la biodiversité à la place de l'agriculture industrielle, ce serait pas mal, Octavia?
Tout à fait, oui. Je trouve qu'on a besoin de le faire.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer? Alors, si j'ai bien lu, c'est une start-up sur le co-jardinage. Comment t'es venue l'idée et pourquoi?
J'exagère pas si je dis que je suis née dans un jardin, parce que j'ai vécu à la campagne et toute ma vie, j'ai eu à prendre soin du jardin de mes enfants, de mes parents. Et un jour, j'ai trouvé l'amour et je suis venue à Toulouse. Et j'ai dû quitter mon jardin. Et là, je me suis retrouvée un peu avec les fruits et les légumes de Carrefour. Et j'ai senti ce besoin. Voilà. Et j'ai senti ce besoin de retrouver le goût de mon enfance. Et par chance, je me suis inscrite à un marathon week-end. C'est un week-end où on essaie de développer un projet. Et j'ai eu l'occasion de développer Adopte ma tomate pendant un week-end. Voilà, c'est pas compliqué.
D'accord. Alors, il y a d'autres, tu vois, par exemple, mais maintenant tu commences, bienvenue à Toulouse. Ben, je salue au passage Lise Martin aussi, que vous avez entendu juste avant le début de l'émission, donc auteur, compositrice, interprète et toulousaine depuis quelques mois aussi. oui, il n'y a pas, tu as cité Carrefour, moi je pourrais te citer entre autres le Recantou qui est 42 rue des Sept Troubadours et là qui est un magasin de producteurs en fait qui a été créé avec l'APRÉ qui est une association culturelle dans tous les sens du terme, la culture de l'esprit et la culture aussi du corps dans le sens de bien nourrir son corps. Donc l'APRÉ, la librairie Floury et la Confédération Paysanne.
Je vais les noter.
Voilà, donc ça s'appelle le Recantou et c'est 42 rue des Sept Troubadours. Et tu pourras revenir même de ma part, puisque moi je suis un adepte. Et d'ailleurs, je salue au passage l'ami Philippe Sanson, qui est un des créateurs justement du Recantou, qui est aussi le rédacteur-chef d'Alter Echo. Donc c'est un trimestriel qui parle de solidarité, d'altermondialisme et d'écologie, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Et là, c'est sur les grands projets utiles, ça change des projets inutiles. Donc c'est le nouveau numéro que vous trouvez notamment en vente à l'American Cosmograph, mais aussi à l'Utopia de Tournefeuille et dans quelques lieux comme ça, et sans doute la librairie Floury aussi. Voilà, je passe la parole à mon ami Landy, qui va gentiment te questionner. Mais donc, au départ, c'était en Roumanie où tu cultivais tu aidais tes parents à cultiver.
Tout à fait. C'est là où j'ai découvert l'amour pour la nature.
D'accord. Et après, l'amour tout court qui t'a mené jusqu'à Toulouse. c'est très bien. Landy, une question. Et après, nous passerons la parole à Sophie, parce que je sais qu'elle devra nous quitter en cours d'émission.
Bonjour Sophie, bienvenue.
Donc Sophie Borde, bonsoir, bienvenue dans l'émission et à tout de suite. D'abord, je passe la parole à Landy qui va gentiment questionner notre amie Octavia.
Bon, gentiment, pourquoi adoptematomate.com? Ça vient d'où l'idée? C'est un site de rencontre?
Oui, sans rigoler, c'est un site de rencontre. On aide les gens qui souhaitent jardiner et qui n'ont pas de jardin, rencontrer les propriétaires qui veulent mettre à disposition leur terrain. Et le nom de site, il est arrivé dans 5 minutes. D'accord. On a fait un brainstorming, on s'est posé des questions Et en rigolant, on s'est dit, mais pourquoi pas, adopte ma tomate. Et c'est resté.
Donc, on y fait des belles rencontres et des belles tomates, au final, dans cette...
Ça, c'est autant, parce que malheureusement, c'est la première année où on peut vraiment jardiner avec Adopte ma tomate. Et on va cuire les tomates bientôt.
Et donc, le principe, c'est en fait aussi, de, si j'ai bien compris, de mettre en rapport des personnes qui ont, par exemple, un jardin, mais qui n'ont pas le temps de le cultiver, et d'autres qui n'en ont pas. Tu n'en avais pas, tu en as peut-être un aujourd'hui ou...
Non, j'ai toujours pas.
Et d'accord.
J'essaie de trouver un voisin qui aurait la gentillesse de m'apprendre aussi, parce que j'ai toujours des choses à apprendre, et de me donner un petit bout de son jardin. Mmh.
Après, ce qui m'a intéressé dans cette démarche-là, c'est que j'ai vu sur le site donc, de Adopte ma tomate qu'il y avait un lien avec la permaculture.
Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je suis fascinée par le concept. C'est un respect de la nature à 100%. Et vraiment, c'est ce que je pousse à maximum sur la plateforme. Et avec tous les utilisateurs qu'on a de plus en, qui arrivent sur la plateforme, je pousse l'idée d'utiliser la permaculture. L'agroécologie, c'est un nouveau concept aussi que j'ai découvert. Et j'incite les gens à ne pas utiliser tout ce qui est produits chimiques.
Mais de toute façon, les produits chimiques, si nous réfléchissons bien, ça se termine par CID. Donc tout ce qui se termine par CID, ça veut dire que c'est la mort.
Tout à fait.
Hein ? Donc, nous sommes là dans une agriculture mortifère. Et dans l'émission « Et si demain », bien sûr, nous défendons autre chose. Et si demain, le documentaire était à l'honneur aussi avec Sophie Borde, qui m'a permis de retrouver d'ailleurs des liens avec Jeanne Bourgon. Merci, Sophie. On va te rapprocher un peu le micro. Peut-être c'est bon, là, Jean-Loup, ça va bien ? Oui, ça va le faire. Et donc, merci d'être venu jusqu'à nous, puisque tu étais finalement, c'est toi aussi qui a fait la programmation de la terre et le lait, qui est passé notamment chez nos amis de l'American Cosmograph le dimanche 4 mars.
Oui, tout à fait. Eh bien, oui, Jeanne Bourgon, c'est une réalisatrice qui a une démarche très intéressante et qui est très gentille, très agréable, très sympathique. Voilà, mais donc au-delà du point de vue humain, la terre et le lait, c'était donc des portraits de producteurs de fromage qui sont aussi éleveurs et qui ont décidé de s'inscrire dans le cycle des saisons, d'aller à l'encontre des modes de moyens de consommation dominants, de l'agriculture dominante. Et donc, en fait, sont des portraits qu'elle a réalisés de 26 minutes chacun. 26 minutes de portrait, c'est quand même pour certains un an de tournage, avec le temps de prendre contact avec la personne et de la connaître, de prendre des moments, des moments du film qui montrent à la fois les gestes des éleveurs, leur rapport aux animaux et les difficultés qu'il peut y avoir justement dans ces petits producteurs qui sont souvent coincés. Par l'administration, par des tas de contraintes économiques. Et c'est un mode de survie qui est assez difficile, mais c'est, à chaque fois, c'est des gens qui se sont engagés. Donc toujours pareil, ce qui est un peu le fil rouge des films que je présente dans ce cycle, et qui décident de résister un petit peu.
Eh bien, Jeanne Bourgon viendra vendredi matin dans l'émission Traversée entre 10h et midi.
Ah, c'est une très bonne nouvelle.
Donc, elle sera là dans mon autre émission. Et donc là, tu viens aussi. Alors, je rappelle que tu co-organises, c'est toi qui organises, fait les yeux dans les docks en partenariat notamment avec la librairie Terra Nova et donc aussi nos amis de l'American Cosmograph. Donc, bientôt, il y aura peut-être un film sur Adopte ma tomate qui passera aussi dans ce cadre-là. Puisque notre amie Octavia Ivan a conçu, en tous les cas, imaginé un co-jardinage créatif, et ça c'est important. Mais là, il va se passer aussi quelque chose dans le cadre de Ciné Latino, si j'ai bien compris, et donc avec les yeux dans les docks, et ça c'est jeudi prochain, donc jeudi qui arrive.
Oui, c'est-à-dire que juste donc la veille de l'ouverture du festival, donc avec Fabrice de la librairie Terra Nova, on a souhaité programmer, ça sera une soirée en deux temps avec un film qui est un classique de l'histoire du cinéma documentaire et aussi de l'histoire du cinéma militant, puisque c'est Septembre chilien qui a été réalisé par les groupes Medvedkin. Donc je pourrais dire un petit peu ce que c'est que les groupes Medvedkin tout à l'heure, mais donc il a été réalisé en 1973, quelques jours après le coup d'état de Pinochet au Chili. Et donc c'était très rare à l'époque, c'était pas un monde d'images comme maintenant, il n'y avait pas un tel foisonnement, et d'avoir des images à chaud. Donc il y a à la fois des témoignages de politique et des prises de vue de prisonniers dans les stades. Voilà, plusieurs moments comme ça qui font que c'est un film très 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 précieux dans l'histoire. Et juste après, donc il y aura une personnalité de la bibliothèque documentaire internationale contemporaine qui s'appelle en abrégé la BDIC, quelqu'un du service audiovisuel qui va venir avec des témoignages de réfugiés politiques chiliens pour faire le lien entre justement l'histoire et maintenant. En fait, c'est pour ça qu'on a appelé ça du Chili à l'exil et de 73 à aujourd'hui. Voilà, donc à la fois un temps de cinéma en lien avec l'histoire et puis un moment de témoignage avec l'idée de constituer des archives orales de ces personnes, tout ce qu'elles ont vécu depuis l'exil et celles qui sont venues, celles qui sont parvenues.
Landy,
Quand tu parles de témoignages de réfugiés, c'est les réfugiés des années 1973, c'était après les événements, les réfugiés qui se sont installés en France.
Oui, c'est ça. C'est ça.
D'accord. C'est... Et qui vivent toujours
Et
ici.
Alors, voilà. Alors, ce sont des témoignages, oui, qui ont été réalisés à Nanterre, donc, puisqu'il y a une université, l'université de Nanterre, qui est en contact avec la bibliothèque documentaire internationale contemporaine, et ils travaillent ensemble. Et donc ça a été fait là-bas. Et c'est donc l'idée, c'est sont des gens qui sont partis, pas forcément tous en même temps, qui sont partis à différentes époques, de toute façon qui étaient persécutés.
Donc, le régime de Pinochet.
Tout à fait. Voilà. Ouais.
Et les vidéos, ce sont des vraies vidéos qui ont été récupérées ou c'était des reconstructions
Alors, en ce qui concerne le film qu'on va passer avant, donc Septembre chilien, c'est un film dont les prises de vue ont été faites sur place en 73, donc par les groupes Medvedkin. Donc je vais présenter rapidement les groupes Medvedkin, parce que c'est vraiment très intéressant au niveau du point de vue, au point de vue de l'histoire du cinéma documentaire. Donc en 67, juste avant donc tous les événements qu'on connaît évidemment de 68, il y avait déjà un peu partout des grèves en France, et notamment il y a eu une très très grande grève à la Rodiaceta vers Besançon, donc dans une usine avec des ouvriers. Et cette grève, ça avait été une des plus grandes grèves depuis 36, de par le nombre de personnes mobilisées, de par sa durée. Et il se trouve qu'il y a un cinéaste qui s'appelle Chris Marker, qui avait déjà commencé à faire des films depuis déjà quelques années, qui a voulu aller dans cette usine témoigner de la condition des ouvriers. Et quand il a ensuite montré... Alors, donc, il a fait un film qui a été censuré par l'ORTF. Le film n'est jamais passé, et pourtant, il était très soft, puisqu'en fait, c'était des témoignages d'ouvriers qui n'étaient même pas en train de manifester ou de lutter, mais qui témoignaient de leur façon de travailler, de leurs conditions qui étaient terribles du point de vue du nombre d'heures de travail, du peu de repos qu'ils avaient, etc. Et en fait, donc, ça n'est pas passé à la télé. Et donc, censuré sur les antennes, et les ouvriers ont dit à Chris Marker, c'est bien joli ton film, mais bon, toi, t'es de l'extérieur, tu ne comprends pas vraiment. Et c'est là qu'il a dit, bah, très bien, justement, on avait l'intention de vous donner les moyens de faire vos propres films. Et c'est à partir de là que sont nés les groupes Medvedkin, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, et avant 68, et avant les états généraux du cinéma, il y a donc des personnes qui sont allées régulièrement, qui ont fait les allers-retours entre Paris, Besançon et puis aussi Sochaux, puisqu'il y avait aussi l'usine de Peugeot à Sochaux, et qui sont allées faire des films, former les personnes qui travaillent dans les usines à faire leurs images, à les monter, etc. Et à l'époque, l'étape de montage, c'était pas comme le montage virtuel maintenant. C'était des grosses machines, il fallait casser des murs pour les apporter. Voilà. Donc c'était toute une aventure qui a duré donc de fin 67 à Justement, à ce, Septembre chilien, c'est le dernier film des groupes Medvedkin. Et il a été fait sur un budget qui avait été prévu pour un autre film, qui avait été attribué donc à Chris Marker et à ses compagnons de route. Et puis, vu les événements, tout le monde a décidé que c'était bien. Donc, c'est Bruno Muel, un des membres des groupes Medvedkin, qui est monté filmer. Voilà, donc je suis très contente qu'on puisse montrer ce film. Et aussi, après, qu'il puisse y avoir un échange autour de témoignages. Donc là, qui sont, pour vous répondre, qui sont des archives qui sont réalisées depuis peu, qui sont des collectes de paroles, en fait. Voilà, mais faire le lien...
Et donc, ça se déroulera jeudi, et je suppose que c'est à Terra Nova.
Voilà, donc ça, c'est à Terra Nova, exactement.
Et à partir de quelle heure ?
Donc, c'est jeudi 15 mars à 19h.
C'est important de le préciser, de le redire, et d'ici là, l'émission sera rediffusée. Et en podcast, grâce à Jean-Loup, donc tout ira bien, Madame la Marquise, tout ira bien. Non, mais c'est important. Landy, d'autres questions, je suppose ?
Non, par rapport, parce que je ne connaissais pas en fait, les groupes Medvedkin, ce n'est pas un hommage au réalisateur russe Alexandre Medvedkin,
c'est exactement, c'est tout à fait ça. C'est explicitement un hommage à Alexandre Medvedkin, qui avait fait un film que Chris Marker adorait, qui s'appelle, entre autres, Le Bonheur, et puis surtout qui partait... À l'époque, avec un train, parcourir la Russie. Alors, non pas pour faire participer les paysans à leur propre film, mais en tout cas pour faire des projections avec eux. Et donc, du coup, pour... voilà. Et d'ailleurs, Chris Marker a fait un hommage ensuite à ce cinéaste, une fois qu'il a été mort. Une fois, pardon, qu'il est décédé, qui s'appelle Le Tombeau d'Alexandre, qui est un hommage cinématographique, mais qui ne... Enfin, comment dire, Chris Marker rend hommage à son ami tout en pointant les contradictions qu'il a eues après, voilà, par rapport au fait qu'il était dans un régime problématique. Mais en tout cas, il a eu une belle démarche et c'est pour ça que les groupes ont voulu prendre son nom.
D'accord. Octavia, tu avais peut-être aussi une autre question à poser à notre amie Sophie ou une réflexion par rapport à ce que tu viens d'entendre ?
N'oublions pas que je viens de Roumanie, du coup, c'était pas vraiment la vie rose. Du coup, ça me donne vraiment envie d'aller voir ce film parce qu'il y a des choses qu'on a vécues nous-mêmes et qu'on peut toujours retrouver. Et je connais pas assez sur cette histoire et je suis vraiment curieuse. J'ai bien noté la date et l'heure.
Bon, bah, très bien. Bah, à très bientôt alors.
Voilà, ça sert à ça aussi l'émission. Et si demain, finalement, tout le monde se rejoignait pour propager l'amour et enterrer les armes, ce serait pas mal ça. Hein ? Et si demain l'humanité marchait sur ses pieds et non pas sur la tête, parce que là elle s'est trompée, le ciel, la tête c'est là-haut et les pieds c'est sur terre. Comme d'ailleurs nous pourrions aussi. Est-ce que tu connais, tiens, au fait Octavia, le conte du colibri de Pierre Rabhi ?
Ah oui, en fait, ça, c'est toute une histoire de comment je suis arrivée à Adopte-moi-Tomate. Je vais très résumer quand j'ai répondu tout à l'heure, mais j'ai vu un reportage sur Pierre Rabhi et qui m'a fascinée. Et quand j'ai entendu qu'est-ce qu'il dit, fais ta part, je ne sais pas, ça m'a parlé. J'avais peur de lancer une entreprise dans un pays que je connais à peine, avec une culture que j'apprends toujours, dans une langue, comme vous entendez, j'ai un accent, j'apprends toujours les mots et tout. Mais j'avais peur. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui.
D'accord. Merci pour ces précisions. Donc, ça veut dire que finalement, beaucoup d'invités connaissent, font leur part aussi du colibri. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, Sophie Borde, toi, tu nous l'avais peut-être dit dans une des premières émissions, mais tu peux le répéter. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es intéressée comme ça ? Je crois que tu as suivi peut-être un cursus aussi au niveau des études et professionnelles et tout, mais t'intéresser comme ça au documentaire, mais au documentaire qui raconte des choses qui sont fortes.
Oui, alors c'est une bonne question. C'est difficile toujours de savoir pourquoi on s'intéresse à certaines formes artistiques ou à certains sujets. Moi, c'est l'histoire qui m'intéressait, puisque je pense que l'histoire, on a beaucoup à apprendre en connaissant un peu mieux l'histoire pour comprendre notre monde. Et voilà, et donc ensuite, je suis venue au cinéma documentaire parce que je me disais, quelles sont les façons de rendre l'histoire au cinéma documentaire, sachant qu'on ne peut pas toujours filmer des personnes puisqu'elles ne sont pas toujours là. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur les différentes formes que pouvait prendre un film qui parlait d'histoire. Est-ce qu'il y a des images d'archives ou pas? Est-ce qu'il y a des témoins, etc.? Et surtout à faire une recherche sur qu'est-ce que c'est que lier le politique et l'esthétique dans une forme artistique, donc là le cinéma documentaire. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, d'où cette recherche. Et puis petit à petit, j'en suis venue à être dans des milieux dans lesquels il y avait soit des documentaires qui se fabriquaient, soit des documentaires qui étaient diffusés, distribués. J'ai rencontré plusieurs personnes de ce milieu et j'ai vu de plus en plus de films. Et je me suis aperçue aussi qu'il y avait quelque chose qui était très fort dans le cinéma documentaire, c'était la rencontre avec les personnes filmées, donc, et tout ce qui peut se passer et qui n'est pas prévu. Parce que même si pour faire un film documentaire, évidemment, il faut écrire en amont, évidemment, parce que ne serait-ce que pour avoir des petites aides pour commencer son film, parce qu'il y a quand même une économie en amont, ou alors tout le monde fait tout seul, mais de toute façon, même si on veut savoir où on va, on écrit un minimum. Mais après, il y a toujours des choses qui se passent qui ne sont pas prévues, donc il y a l'irruption du réel, et puis il y a aussi comment le film peut changer le réel, comment les rencontres peuvent changer le monde, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le cinéma engagé ou militant, enfin, quel que soit le terme qu'on emploie, il a une histoire aussi, et je pense que ce qui est important, c'est de s'engager, de voir de quelle façon, et de voir, même si on ne peut pas forcément penser que le cinéma peut changer le monde, mais en tout cas, les rencontres peuvent changer le monde, les échanges... Et voilà.
Mais peut-être qu'il ne peut pas changer le monde, mais qu'il apporte aussi justement sa part, qui est importante, puisque c'est aussi, et c'est un peu le tempo aussi des émissions Ici Demain et Traversée, d'essayer d'amener un autre regard, une autre information, parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où la majeure partie des médias appartient aux multimilliardaires. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une réelle information. Et je rappelle d'ailleurs que dans une des émissions de Traversée, c'était je crois le 23 février, j'ai fait une émission à charge contre l'obligation des 11 vaccins. Parce que c'est une forme aussi, dénoncer une forme de dictature, puisque c'est pas la même qui s'installe peut-être dans notre pays, en France. Mais il y a quand même des soubresauts, là, des choses qui font que, par exemple, quand des dirigeants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs envoient leurs troupes manifester, des fois avec des tracteurs qui dépassent les roues, dont les roues dépassent la hauteur du plafond du studio, et c'est peu dire. Donc, et qui arrachent des arbres, qui font brûler sur les routes, tout ça, ça a coûté a priori 7 millions d'euros déjà à une entreprise qui s'appelle Vinci, mais qui est multimilliardaire aussi, hein, ceci étant. Mais ils ne vont pas passer à la caisse et c'est nous qui passerons à la caisse. Par contre, quand on est zadiste, qu'on occupe Bure ou qu'on occupe Sivens, nous sommes sortis manu militari. Donc il y a deux poids, deux mesures. Et quand on est bien pensant dans la société actuelle, on peut manifester, on peut aller jeter du fumier, on peut faire brûler des choses, ça ne dérange pas beaucoup. Par contre, quand on remet en cause le mode de fonctionnement d'une société, c'est totalement différent. Donc là, le documentaire apporte aussi... Enfin, l'image, le son, c'est important.
Oui, oui, tout à fait. Après, justement, on en revient toujours à la difficulté de réaliser ces films-là, puisque pour, théoriquement, pour pouvoir faire un film et le financer, il faut avoir des sous en amont et qui financent dans le système économique dans lequel on est, ça va être les télés ou les régions, et en tout cas pour le cinéma documentaire. Et du coup, ça veut dire que pour avoir des sous, il faut que le projet soit accepté, et certains projets ne seront pas acceptés, donc c'est très compliqué. Voilà, et après, pareil, une fois pour être diffusé, il faut qu'une salle accepte, ou une salle ou un autre lieu accepte que le film soit vu. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. On a les moyens... de faire des images, de faire du montage, maintenant qui se sont démocratisés par rapport à une époque où c'était vraiment du matériel très très lourd. Les techniques sonores ont fait que justement, dans les années 60, on a pu aller dans la rue, donner la parole à des gens qui ne l'avaient jamais, puisqu'avant c'était quelqu'un qui parlait à la télé et il y avait une voix et c'est tout. Là, on a pu entendre aussi plusieurs voix. Donc ça, c'est important, les techniques ont évolué. Après, il y a toujours les histoires économiques et ce qu'on appelle la censure économique dans plusieurs domaines d'ailleurs. Et la difficulté aussi qui se retrouve dans le monde du livre, pour certains, de faire entendre leur voix parce qu'ils passent par des maisons d'édition indépendantes qui sont peu diffusées. Voilà, c'est toujours le même problème. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est important de témoigner, de donner la parole aux personnes concernées.
Oui, mon petit monde, il a été changé par les documentaires. C'est une source d'information très riche pour moi. Et ça m'a fait découvrir plein de domaines d'activités, des choses qui essaient d'être cachées un peu, mais dans un documentaire, on peut le comprendre mieux. Oui. Et c'est intéressant de voir le derrière, comment ça se passe derrière, avant que le film il sorte. Mmh. Voilà, c'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte tout le temps.
Mmh. C'est vrai. Mmh.
C'est bien, Octavia. Je vois qu'il y a des échanges riches avec Sophie Landy. Tu avais une autre question à poser, peut-être à notre amie Sophie ou pas de.
Mais avant de partir, je ne sais pas à quel moment elle quitte notre studio. C'est juste de te donner l'info pour nos auditeurs où on peut trouver en fait l'info et comment on peut se procurer. Est-ce qu'il faut une réservation? Comment ça se passe?
Alors pour le, en ce qui concerne la projection de jeudi 15 mars à 19h, qui sera suivie d'une rencontre, donc comme je disais tout à l'heure, cette projection s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Les yeux dans les docks, et ça a lieu à Terra Nova, et l'entrée est libre. Il n'y a pas besoin de réserver, il suffit juste d'arriver à l'heure, voilà, de s'asseoir et tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Après, pour les personnes qui veulent des informations, y a moyen d'aller sur le site, de regarder un petit peu
quel est ton site, en fait,
le texte. Donc, le site de la librairie. D'accord. Alors, je vais donner... c'est www.librairie-terranova.fr. Voilà. D'accord. Tout simplement.
Oui, Sophie, tu avais d'autres informations peut-être ou d'autres choses à dire à nos auditrices et auditeurs d'Occitanie Première et de l'émission. Et si demain, avant de nous quitter, parce que je sais que tu as un rendez-vous après dans la foulée, qui ne sera pas forcément tout tranquille.
Oui, non, moi, je n'ai rien de spécial à ajouter. Je suis très contente d'avoir eu cet échange. Je vous souhaite bonne continuation dans vos projets. Et puis dans cette émission. Et merci de m'avoir invité.
Non, mais c'est toujours avec plaisir. Si le prochain rendez-vous en dehors de celui de jeudi, est-ce qu'il est déjà programmé pour que nous, comme ça, nous y pensions en amont pour pouvoir t'inviter aussi à nouveau pour en parler?
D'accord. Alors, le prochain rendez-vous du cycle Les yeux dans le doc, il aura lieu le jeudi 5 avril à 20h. Donc, ça sera cette fois-ci... on invite un réalisateur qui s'appelle Olivier Dury et le film projeté s'appelle Alexandre Marius Jacob et les travailleurs de la nuit. Alors, ce film, je peux en dire deux mots si vous voulez, c'est un film qui est assez fabuleux, enfin assez loufoque, facétieux, un peu comme le personnage dont il fait le portrait, puisqu'il s'agit d'un anarchiste de la Belle Époque qui volait élégamment et honnêtement. c'était l'art du vol. Voilà. Bon, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a inspiré ensuite le personnage d'Arsène Lupin. Mais enfin, du coup, il a aussi fait de la prison, du bagne, il a écrit des textes. Pourquoi est-ce qu'il volait? Il ne voulait pas être salarié, il ne voulait pas participer au capitalisme. Et au cours de ses procès, il en profitait aussi pour dire ce qu'il pensait de la société. Donc c'est très très intéressant de lire ses textes à lui, qui ont été publiés, notamment aux éditions L'Insomniac, et aussi de lire le travail de quelqu'un qui a fait une thèse sur lui, qui s'appelle Jean-Marc Delpech. Et donc il y a deux ouvrages qui ont été publiés, dont le dernier aux éditions Nada. Voilà, donc c'est Alexandre Marius Jacob, dit Marius.
D'accord, et ça se passera aussi à la librairie Terra Nova, rue Gambetta.
Voilà, pareil, librairie Terra Nova, rue Gambetta, jeudi 5 avril. Et comme on est en avril, on sera en avril, et que du coup le jour sera un peu plus long, là la projection aura lieu à 20h. Donc là, il ne faut pas se tromper, parce que d'habitude les rencontres ont lieu à 19h. Mais là, pour des raisons d'obscurité, on passe à 20h.
Qui plus est, l'heure aura à nouveau changé et ça passera l'heure d'été.
Voilà, donc, tout à fait. Ouais.
Et oui, en France, c'est l'heure d'été à partir de la fin mars, le dernier week-end de mars. Donc ça veut dire qu'il fera un jour plus tard et par contre, le jour se couchera plus tard aussi. Merci Sophie Borde d'être venue jusqu'à nous et au plaisir de te retrouver donc pour parler du prochain documentaire.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. Et allez, je vous propose, parce que comme ça, ça va sauter aussi, ça va nous mettre la pêche peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, nous l'avions reçu en studio, il s'appelle Chouf et il chante « Ça va péter ».
Fascisterie Roland de Croix. Car où qu'il se cache, Dieu n'existe pas. Pendu à qui, pendu à quoi? Pantapardi, planté, pantoi. Si on nous attache, on veut pas rester là. Au-dessus de nos têtes, le ciel brille, rayonne sud. Le toit du monde, ça va péter. Tu l'entends l'orage arriver, ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup, ça va, ça va. Y a trop de guerres, de chars d'assaut, pour des frontières ces murs trop hauts. Mais s'en vaut-il la peine pour rire nos caniveaux? Les poings en l'air face à l'écho, quand sur la terre crient les corbeaux. Des champs remplis de haine, d'un idéal pas beau. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va.
Ça va, oui, ça va dans l'émission. Et si demain, la permaculture, le co-jardinage écologique remplaçait l'agriculture industrielle, eh bien, ce serait super. Et donc là, c'était Chouf, ça va péter. Et c'est tiré de son album Volatile. Et nous l'avions reçu dans l'émission. Et si demain, tout comme Lise Martin, que vous avez entendu juste avant le début de l'émission. Au passage, donc, je rappelle que vient de sortir Alter Eco, qui s'intéresse donc à la solidarité, à l'altermondialisme, à l'écologie, et qui l'a sort tout un dossier sur les grands projets utiles et ça change la donne. Donc vous retrouvez ce document, notamment chez nos amis de l'American Cosmograph, mais aussi à l'Utopia de Tournefeuille et puis dans d'autres lieux fort sympathiques. Je vais présenter rapidement un bouquin de Michel Tixier, ça s'appelle, et ça tombe bien, hein, parce que c'est dans le tempo de ce que fait notre ami Octavien, en tous les cas dans ses projets. Donc Michel Tixier vient d'écrire ou de publier, en tous les cas, aux éditions Mosaïque Santé, « Faut bien mourir de quelque chose, diabète ou cancer ?» Point d'interrogation. Mais on peut aussi décider de vivre longtemps et en bonne santé. Donc justement, c'est ce que nous propose notre amie Octavia Ivan, qui est présente en studio aujourd'hui, et puis qui reviendra sans doute dans des émissions, et peut-être, pourquoi pas, qui fera une émission en roumain.
Pour les Roumains de Toulouse.
Voilà, pour les Roumains de Toulouse, ce serait sympa. Et donc aussi, et nous l'avions reçu dans l'émission Traversée il y a une semaine, c'est Ciné Palestine, donc, qui démarre le 5 mars. Ciné Palestine du 5 au 13 mars, c'est important, et il y a pas mal de programmation, notamment chez nos amis de l'American Cosmographe, mais aussi à l'ABC à Toulouse, à la Cinémathèque, au Cratère et aussi dans quelques villes alentours, et également à la Cave Poésie. Donc le programme, vous pouvez le retrouver sur le site de Ciné Palestine. C'est important, je pourrais te passer le document si tu veux, Octavia. Voilà, je crois que j'ai tout dit ou presque. Non, je salue au passage Céline Boussier qui a accepté de parrainer, de marrainer comme elle voudra l'émission Et si demain, est traversée aussi, donc qui est une lanceuse d'alerte. Je salue au passage notre ami Renaud Delperou et sa bande des Merles Moqueurs, un très bon resto qui est situé du côté de la Patte d'Oie.
Avec des produits bio ?
Avec des produits de bonne qualité en tous les cas, et du vin bio, c'est sûr. Voilà, donc c'est les Merles Moqueurs, et c'est une ancienne bande de la CGT qui a créé ça. Et c'est le compagnon de Marianne Dupont, que je salue au passage, et puis aussi toutes les fidèles et fidèles de l'émission. Daniel Lafont, Anna Carbonel, et puis j'en oublie, Fanny et Grégoire d'Ozoville. Voilà, Patrick Boyer également. Allez, j'arrête là, parce que sinon je ne vais pas en finir. Si, je salue au passage les amis du Théâtre du Pavé aussi, et puis de TV Sol Actualité sur Internet. Voilà, j'ai tout dit, ou presque. Allez, Landy, tu as d'autres questions à poser à notre ami ?
Oui, tu travailles aujourd'hui avec le start-up que tu as créé récemment. Est-ce que tu as eu des difficultés pour créer déjà ton start-up ?
Tu parles de point de vue création d'entreprise.
Tout en fait, parce que normalement, ça peut aller très vite. En fait, on a les idées, etc. Mais bon, au final, il y a des difficultés. On passe par des...
Oui. En fait, quand on se lance dans cette aventure, parce que ça reste une aventure en soi, on n'a aucune idée en quoi on se lance. Et du coup, chaque jour, c'est tout nouveau. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on est très bas. On a besoin de nos amis pour nous aider à nous relever. Et la difficulté pour moi, ça a été le fait que je me suis retrouvée tout seule sur un projet qui est assez complexe, parce que, bon, après, je pense que c'est la vie de chaque entrepreneur, mais on a tout à gérer, la communication, le développement de business, la stratégie, trouver des partenaires, trouver les clients, tout ça, on fait tout seul avec nos 10 mains et les deux bouches qu'on a. Et voilà, c'est, au début, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que ça marche. Et on teste. On teste, et à la fin, ça marche. Et moi, j'aime beaucoup travailler étroitement avec, j'appelle ça ma communauté, ce sont les utilisateurs d'Adopt-Automate. Et autant que je peux, je garde un lien avec eux. Je connais une partie de mes propriétaires personnellement. Je suis allée essayer de comprendre leur histoire, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur jardin, comment ils veulent travailler, pour que derrière, je peux trouver les bons jardiniers qui viennent. Du coup, ça, j'ai retrouvé un peu qu'est-ce que j'aime faire dans tout ce qui est Adopt. Je sais, c'est le contact avec les humains. Du coup, oui, c'est compliqué, mais c'est excellent. C'est une belle expérience.
Que représente cette entreprise pour toi, même si elle est nouvelle?
Oui, ça fait bientôt 5 mois, je pense, que depuis le premier jour que j'ai démarré. Ça représente à la fois un challenge, J'ai un peu, derrière ma tête, j'ai toujours voulu lancer une entreprise, mais j'ai eu toujours peur. Et là, je me suis auto-dépassée, je l'ai lancée. Et à la fois, j'aime la nature et c'est ma façon de la protéger, inciter les gens. Je me dis, si à Toulouse, on arrive à faire le maximum de jardins avec Adopte-moi-tomate de façon bio, moi, je suis contente.
Avec qui tu travailles quand tu parles en fait de façon bio? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec un producteur des graines, des semences. En fait, tu travailles avec qui?
Parce que
nous, on a un ami avec Christian qu'on a eu longtemps. En fait, il y a longtemps, on a eu à la radio Biogerme, qui font en fait des graines bio.
J'aimerais bien les rencontrer. Je ne sais pas encore arrivé, mais j'ai eu une belle surprise pour mon premier atelier par enfant. Il s'appelait Plante ta première tomate. J'ai eu un monsieur du nord de la France qui a proposé d'envoyer des graines de tomates anciennes qu'il récupère chez lui. Et il me l'a envoyé par poste. J'ai la photo, j'étais très, très, très touchée. Du coup, j'ai pu avec les enfants planter des tomates qui ne sont pas traitées, qui sont des tomates anciennes et qui, derrière, ils vont pouvoir récupérer les semis et continuer à faire ça. Et j'ai demandé quelle est l'entreprise, est-ce qu'on pourrait continuer à travailler. Et en fait, c'est une personne qui est juste passionnée par l'agriculture. Et je fais de plus en plus de rencontres comme ça. Des fois, c'est des partenaires, oui, certes, mais des fois, c'est juste des personnes qui sont passionnées par le même sujet et qui ont envie de m'aider que ça marche, qu'on y arrive.
Et ça te rappelle, je pense, ton enfance, ton pays, parce que dans les pays pauvres, donc je conclue, en fait, je mets dedans dans les pays d'Europe de l'Est, mais il y a d'autres pays aussi, qu'on échange en fait des graines entre les voisins, etc. Et on ne connaît pas en fait ce commerce de vente de graines, parce qu'on échange et c'est complètement bio. Il n'y a pas de traitement, on n'utilise pas. Je ne sais pas, dans ton pays, quel est le produit que tu as utilisé dans ton jardin? Est-ce que tu as utilisé au moins un produit dans ton jardin?
Dans le jardin de mes parents, je n'ai pas de souvenir d'avoir utilisé. Il y a un produit blanc naturel qu'on met sur les arbres pour qu'ils poussent. Je pense que c'est ça. Après, je n'ai pas de souvenir.
Pour traiter en fait, les troncs des arbres, c'est ça, pour pas que les insectes restent.
Mais je me rappelle mes parents et mes grands-parents parce que j'ai eu la chance de grandir à côté d'un couple de mes grands-parents. Et je me rappelle comment ils récupéraient les sémis chaque année de tout. Et du coup, je sais tout, d'où ça vient, qu'est-ce que je mange, je connais très bien. Et voilà, c'est ça, ça me touche énormément de pouvoir le faire à mon tour et de revenir un peu en arrière. Des fois, c'est bien de le faire, de ne pas aller trop en avance et de revenir, je ne sais pas si on le dit en français, mais de revenir un peu en arrière à des méthodologies anciennes.
Oui, qui sont aussi efficaces parce que nos anciens ont travaillé sur ces mêmes méthodes. Tu n'as pas connu ça, toi, Christian?
Comment je n'ai pas connu ça? Mon père était métayer, donc j'ai dit qu'il a été paysan au départ. Donc si, j'ai connu ça et je suis tombé dans le chaudron de l'écologie, comme je disais à Octavia, ça fait plus de 40 ans maintenant. Donc vous voyez un peu, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Mais il y a un trait, puisque tu soulignais qu'il y avait des méthodes effectivement naturelles. Moi, je me souviens très bien de quelques phrases prononcées par Claude Bourguignon, qui est donc un célèbre chercheur qui a quitté l'INRA et qui a créé avec sa compagne Lydie un laboratoire pour étudier la qualité des terres et qui disait dans le documentaire de Colline Serrault, Solutions locales pour un désordre global, que finalement ce qui s'est passé, notamment, et c'est les États-Unis qui ont amené aussi ça, il faut se le dire, les tanks ont été transformés petit à petit en tracteurs monstres qui écrasent les sols. Il faut se rappeler, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, que Monsanto a fabriqué le défoliant qui a servi pendant la guerre du Vietnam. Donc en changeant un petit peu la formulation, c'est devenu peut-être du Roundup et d'autres pesticides de ce genre. Donc c'est juste un recyclage. Et à Toulouse, nous sommes bien placés puisque AZF a sauté. Ce sont des nitrates qui ont fait sauter AZF et les nitrates, ça sert à fabriquer des explosifs. Donc tout ça, ce n'est pas neutre. Et puis on a fabriqué aussi des pesticides ou insecticides avec du phogène, donc qui allait de justement qui passait de Tolochimie à Ronpouling à l'époque. Voilà. Donc et c'était à Toulouse. Donc voilà, il y a des choses qui se font et on a dévoyé complètement, comme je l'ai dit, le métier noble du paysan qui est de nourrir les êtres vivants pour le transformer en agriculteur, en exploitant agricole et après en agri-manager, ce qui n'a plus rien à voir.
Christian, oui. J'essaie de comprendre pourquoi on a fait tout ça. Parce qu'on était capable tout bien d'être autosuffisant et de se nourrir chaque famille avec les légumes de son propre jardin. Mais en fait, il y a eu les guerres, on n'avait plus de quoi manger, on avait besoin de produire de façon industrielle pour arriver à nourrir les gens. Mais on n'est plus dans la guerre, on n'a plus besoin. On a besoin de changer parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Oui, mais c'est une guerre, je pense, qui est voulue. Et comme nous dénonçons aussi le brevetage du vivant, quand tu parlais des échanges des graines, ça, c'est, même les, normalement, les agriculteurs ne peuvent pas le faire. Sinon, ils sont taxés, poursuivis, et c'est anormal de breveter le vivant. C'est un proprement scandaleux. Et je me souviens que notamment la Confédération paysanne aussi avait parlé du projet Terminator au sujet des OGM, parce qu'un OGM, un organisme génétiquement modifié, ne peut pas se reproduire. Ou s'il se reproduit, il se reproduit mal. Donc si tu fournis des semences OGM et qu'après tu décides finalement de ne plus en fournir parce que les paysans ne peuvent plus, enfin les agriculteurs ne peuvent plus les acheter, tu peux affamer un peuple.
Tout à fait. Et on est là. On n'a plus de vraies graines pour arriver à continuer la production. Malheureusement, on est là.
Mmh. Eh ben, si Bill Gates et compagnie, ils ont mis les graines, les semences premières à l'abri, congelées. Je ne sais pas si ce n'était pas en Norvège, dans un bunker. Quand il dit que c'est pour préserver la biodiversité, je pense que c'est surtout pour après y déposer des brevets dessus. Et quand je vois qu'en France, on l'invite pour défendre justement l'écologie, je me pose des questions.
Vraiment. Yeah. On doit se poser des questions. On ne peut pas accepter les choses comme elles sont aujourd'hui.
Non, mais nous sommes d'accord. C'est parfait. Et toi, donc, tu es venu en France et à Toulouse, mais je suppose que tu as toujours de la famille en Roumanie.
Oui, en fait, tous mes amis et toute ma famille, ils sont restés là-bas. Ils ont continué leur vie et tout. Et je ne t'ai pas vraiment répondu à la question lundi, oui, désolé. Il y a cette partie d'échange que j'ai grandi à la campagne, du coup c'est une zone où on ne fermait pas la porte à clé, les voisins prenaient soin de nous quand on était enfant, ma grand-mère nous cuisinait quand ma mère elle travaillait et tout ça. Et c'est aussi un échange humain, mis à part les graines et tout, les gâteaux qui traversaient les territoires et tout, mais c'est aussi un lien social. C'est la deuxième partie d'Adoptons ma tomate que je propose, que j'aimerais arriver à faire, c'est recréer du lien social au sein du même quartier. C'est pour ça que je pousse beaucoup à aller jardiner chez le voisin. Je veux obliger les gens de se parler, savoir comment ils vont. Voilà.
Nous avons compris en fait qu'il y a du lien. Moi, j'avais noté dans mes notes que c'est pour créer du lien social autour du jardinage. Ça, on a bien compris. Et toi, tu gagnes ta vie comment ? Parce que quand on parle d'une entreprise, on parle aussi de gagner sa vie. Parce qu'on ne travaille pas bénévolement.
On va pas parler d'aujourd'hui parce que... Voilà, merci pour l'emploi. Mais on va sortir une application mobile au mois de mai-juin. Et cette application, avec tout le package de services qui va être proposé, il va y avoir une version payante qui n'est pas obligatoire. Et voilà, ça va être un abonnement annuel par utilisateur. Ça, c'est un début. Et après, on souhaite arriver, ça c'est le rêve, mais on va y arriver, de créer des potagers dans les entreprises pour les employés.
D'accord. Et pour les, en fait, quand tu dis pour les entreprises, je pense à ça parce que j'ai grandi, moi, nous on avait un potager à l'école. Donc,
moi, j'ai pas eu ça.
À l'âge de 6 ans, 7 ans, en fait, nous on sortait, on avait des, en fait, des terrains qui appartenaient à notre école et on avait notre potager, on avait la vigne, les tomates et tous les légumes. Donc on savait en fait déjà faire gamin. Et donc aujourd'hui, ça se perd pas. Donc une fois qu'on a ça dans le. Dans le sang, on ne lâchera pas le morceau. Donc, du coup, c'est aujourd'hui, inutile que je t'explique. Aujourd'hui, je fais mon potager comme Christian et comme tant d'autres. Et pour revenir à nouveau à ton entreprise, tu te vois comment ? Parce que maintenant, avec 5 mois, certes, il y a des difficultés. Je te posais la question tout à l'heure parce que c'est un petit peu les démarches administratives, etc. Tu le vois comment, en fait, le Toulousain, quel accueil te font les gens aujourd'hui ? Est-ce que la démarche, elle est pertinente ?
Ils ont envie. Ça, c'est la belle surprise.
Ils
ont vraiment envie et ils ont envie d'apprendre la permaculture et de se recontacter à la nature, vraiment. Et c'est là, en fait, le fait que petit à petit, j'ai eu des gens qui se sont inscrits sur la plateforme, parce qu'au début, j'étais tout seul. Au début, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, on a dépassé les 220 personnes qui sont inscrites sur le site en tant que soit jardinier, soit propriétaire.
D'accord.
Et on ne parle pas que de Toulouse. Aujourd'hui, on parle aussi de Lille, de Rennes, Paris, Montpellier. Ça veut dire que...
C'est la même plateforme.
C'est la même plateforme.
Ouais. D'accord. Et comment, c'est toi qui gères, en fait, derrière
aujourd'hui,
c'est...
Oui. D'accord. À long terme, je ne vais plus pouvoir gérer tout seul.
Au pratique, comment tu fais, en fait ? Je m'inscris en tant que... En fait, moi, j'ai le jardin, j'ai du temps aussi, donc j'ai les deux. Je ne peux pas, mais je vais faire le jardinier qui n'a pas du temps.
Tu pourrais apprendre à quelqu'un, par exemple.
D'accord.
Voilà, oui, aujourd'hui, il y a des formulaires Google qui sont disponibles sur notre site et on peut renseigner les données. Ça va être incorporé dans notre application qui va être un peu plus jolie que notre site aujourd'hui, mais c'est comme ça, on est début. Et on peut s'inscrire, voilà. L'idée, c'est qu'on ne limite pas les personnes à se dire « je suis jardinier ou propriétaire ». Je peux très bien avoir mon jardin à la maison. Mais pause midi, quand je travaille, je pourrais avoir besoin d'aller faire une pause dans la nature, apprendre un collègue, jardiner chez quelqu'un d'autre.
Et tu rapproches les gens par rapport au code postal, comment tu fais ?
Oui, j'essaie de faire au mieux, ça peut être par code postal, plutôt c'est le code postal qui marche le mieux. Et je demande aussi, parce que je ne veux pas prendre la décision pour eux, je demande où est-ce que vous voulez jardiner. Parce qu'on peut vivre à minime et on peut vouloir jardiner à, je ne sais pas, Basso Cambo. C'est ça aussi. Voilà,
D'accord. Et toi, tu as fait la découverte, en fait, à Toulouse. Tu as vu des terrains qui
Effectivement. Quand je suis arrivée, ça, ce n'est pas la belle partie de l'histoire, mais quand je suis arrivée, j'ai eu du mal à trouver un travail parce que je ne parlais pas français.
D'accord.
Et du coup, je peux dire merci à ça parce que ça m'a permis de passer beaucoup de temps dans la ville à me promener. Je me suis dit, voyons la partie positive, j'ai du temps à découvrir la ville où j'habite aujourd'hui. Et mis à part que c'est une très belle ville que j'adore, sinon je n'aurais pas resté. Mais j'ai vu qu'il y a plein d'espaces verts, mais qu'il n'y a pas de potager. Ça m'a un peu pas choquée, mais je comprenais pas vraiment. Et voilà, petit à petit, il y a une petite idée qui se naît, une petite question plutôt, pourquoi les gens ils font pas pousser des plantes qu'on peut manger. Voilà. Et là, je suis en train de découvrir la réponse. Et une petite astuce, aussi en me promenant, j'ai découvert qu'on a des arbres de tilleul, on a des pommiers, des noisetiers. Des cerisiers, en libre service.
D'accord.
Partout dans la ville.
D'accord. Donc, je salue au passage Jacques Lavergne, le président de la radio. Écoute, nous avons ici donc parmi les invités Octavia Ivan, qui a adopté la tomate, mais l'a fait adopter, qui met en relation des jardiniers avec qui n'ont pas le temps, enfin, des jardiniers qui ont envie de jardiner, mais qui n'ont pas de jardin, et ceux qui ont un jardin qui ne n'ont pas le temps de le cultiver. Et qui plus est, elle serait d'accord pour faire une émission en roumain, puisqu'elle est d'origine roumaine. Donc peut-être que nous enrichirons notre...
Ici même, samedi dernier, je suis venue avec un groupe de roumaines, parce qu'on n'était que des filles, et pour faire des... On a une habitude roumaine, le 1er mars, comme c'est le début du printemps, on produit des petites choses, des petites broches qu'on accroche pour tout le mois. Ça ressemble un peu, c'est rouge et blanc et c'est un mélange. Et on est venu juste dans ce bâtiment, premier étage, pour les faire.
D'accord. Donc, voilà, qu'est-ce que tu en dirais, Jacques, de voir une émission en roumain qui toucherait la communauté toulousaine, mais pas que, puisque nous sommes sur Internet. Donc ça
il vaudrait mieux qu'elle touche la communauté roumaine. Hein,
aussi.
Parce que,
hein
sinon, j'ai peur que les Toulousains, déjà qu'ils n'entendent pas trop l'occitan, mais on va y travailler, ils entendent encore moins le roumain.
Mais ça pourrait toucher, ça serait une émission en fait à Toulouse pour les Roumains de Roumanie. Aussi.
Mais on peut en parler, bien évidemment. Aucun problème, l'antenne est ouverte pour tout le monde.
Voilà. Oui, même, je trouve ma difficulté aujourd'hui, quand je suis arrivée, c'était que des fois les Roumains sont un peu confondus avec les Roms, les Gitanes. Ça peut être l'occasion de faire connaître le fait que les Roumains... on est bien.
Les Roms peuvent être très bien aussi.
Oui, ça, tout à fait.
Les Roms viennent de chez vous quand même.
Ils viennent un peu de partout dans le monde. Mais j'ai des amis Roms et je les apprécie beaucoup.
Ils ont souffert beaucoup d'ailleurs dans tous les pays.
Tout à fait.
Pour moi, c'est un pays entier qui vit toujours. En fait, qui sont mobiles et qui ont souffert de discrimination dans certains pays. Je ne pense pas qu'ils étaient gâtés par leur, par leur sort. Hein.
Qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion, donc Octavia, Ivan, à nos amis auditrices et auditeurs de Et si demain ? Et d'Occitanie première.
Et si demain on prenait soin de notre terre ? On a une seule planète.
Et oui, ben ça c'est très bien. Et donc comment fait-on si nous sommes intéressés par ta start-up donc, qui a démarré sur le co-jardinage ?
Oui, c'est inspiré du covoiturage aussi. tout simplement, on peut aller sur le site qui est adoptomatomate.com ou sur la page Facebook, le même nom, adoptomatomate. Je suis très, très disponible. Je réponds facilement aux emails, par téléphone. Du coup, si les gens, les personnes, ils ont des questions, ils veulent travailler avec moi. Avec grand plaisir.
La preuve, c'est que tu as répondu rapidement quand je t'ai invité. Donc, je te remercie et
avec
au plaisir de te
aussi.
Retrouver dans cette émission ou dans Traverser. Landy, un dernier mot avant...
L'ambition d'Adopte ma tomate, une phrase, tu l'as dit, en fait, de prendre un petit peu, mais tu te vois comment dans 5 ans avec... Parce que ça fait 5 mois.
Oui. Je n'ai pas osé à me poser cette question, honnêtement. Dans 5 ans, j'espère avoir adopté ma tomate compris par plusieurs pays. Du coup, traduit en plusieurs langues.
D'accord.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Jean-Louis Arzac-Fraisse pour la réalisation. Rediff de l'émission demain 13h, c'est disponible. Donc allez, pour celles et ceux qui ont oublié d'écouter ce soir en direct. Et nous allons laisser la place à la bande à Jacques Lavergne. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour l'autre émission Traversée entre 10h et midi. Bye bye, l'indicatif est signé de Damien Moreto.